48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 94e MAG de 48FM, déjà 84 avec Julia à mes côtés. Salut Julia.
Salut Judo, salut à tous.
Alors on change pas, toujours deux sujets d'actualité évoqués dans ce magazine. Deux sujets d'actualité, on va commencer à parler du Téléthon, le Téléthon qui aura lieu du 5 au 6 novembre, le 5 et les 6 novembre, et ici présente avec nous une nouvelle déléguée.
On nous fait signe que ce n'est pas ça.
Non, c'est pas les 5 et 6 novembre. Alors Guy Salahi, bonjour.
Bonjour tout le monde. Oui, petite correction, mais qu'est-ce qu'il fait notre animateur?
Oui, il n'y est enfin, pas là.
Normalement, c'était prévu pour le mois de décembre. Alors, bien qu'on ait changé d'heure, on n'a pas changé de mois.
D'accord, mais on peut déjà donner,
oui,
même en novembre, au Téléthon.
Mais même pour le 14 juillet, il n'y a pas de souci.
Voilà, dès la fin de cette émission, 5 et 6 décembre.
Absolument, merci.
Alors, ici présente une nouvelle déléguée qui va gérer la coordination des actions sur le département, Madame Monique Rousset, bonjour.
Bonjour.
Voilà, dans le micro. Également à nos côtés, alors on part en région avec le responsable régional Jean-Baptiste Meunier.
Bonjour. Oui, bonjour.
Alors la région, mais une région un peu élargie.
Une grande région qui est la région sud-est, donc qui englobe le Languedoc-Roussillon, la PACA, la Corse et Monaco.
Voilà, c'est encore plus grand que la réforme territoriale que nos élus ont voté. Et que l'Assemblée va voter prochainement. On va commencer à parler donc du Téléthon avec peut-être un petit historique, à savoir quand la manifestation a déjà été créée en France, et peut-être d'où est venue l'idée, comment on a créé cette manifestation du Téléthon. Alors je ne sais pas qui veut en parler.
Je prends la parole.
Allez, monsieur.
Alors, donc l'AFM est une association loi 1901, donc construite, bâtie par des malades et des enfants et des parents de malades. Donc a vu le jour en 1958 et le Téléthon est né en 1987, donc le premier week-end de décembre 87 à Antenne 2 à l'époque. Et l'idée a été importée en fait des États-Unis, où un des membres de l'AFM était pour des raisons professionnelles aux États-Unis, et puis Jerry Lewis était là-bas, lui représentant de l'association, de l'équivalent de l'AFM pour les États-Unis, et qui fonctionnait voilà avec un gros show télévisé. Et puis en fait Michel Gémy, qui est ce Français qui a importé le Téléthon en France, a vu ce show et s'est dit c'est ça qu'il nous faut pour aider nos enfants à guérir. Et il a fait le pied de grue devant la loge de Jerry Lewis pendant trois représentations à l'époque, donc dans les années 80, pour voilà essayer de lui parler et puis de pouvoir importer ce programme télé en France.
C'est une des premières grandes causes nationales qui a été mise en lumière par la télévision
française en
France.
C'est la première, ouais, à l'époque, c'est vraiment c'est la première grande cause.
L'AFM, ça veut dire quoi, AFM ?
C'est l'Association française contre l'hémiopathie.
Contre l'hémiopathie. Voilà, peut-être le Téléthon concerne quel type de maladie ? Quel public ?
Alors, à l'origine, donc c'est vraiment l'AFM, donc l'Association française contre l'hémiopathie, donc tout ce qui est maladie musculaire, aider à guérir de ces maladies et aider à vivre avec ces maladies. Et aujourd'hui, 27 ans après, donc cette année ce sera le 28e Téléthon, aujourd'hui c'est beaucoup plus large, puisque il y a les axes de recherche sont vraiment beaucoup plus bénéficie au plus grand nombre. Voilà, c'est un petit peu aussi le thème de cette année, c'est des progrès pour tous.
Julia, une question? Non, toujours pas.
Non, c'est plus au niveau lausérien, au niveau local, ça fait longtemps qu'il y a des actions qui sont menées.
Guy Salahi, on s'est rattaché dès le départ, ou on a attendu un peu?
C'est vrai que le Téléthon, dès le départ, des manifestations ont été improvisées ici et là. Ça a été un petit peu la cacophonie dans un premier temps, mais tous les démarrages se font un petit peu comme ça, sur le tas, surtout quand on est dans un milieu de bénévoles. Il faut tenir compte quand même de la géographie lausérienne. C'est une géographie qui est impactée par cet écart. Les distances sont colossales. On a eu des bénévoles qui ont été particulièrement intéressants. Je les nommerai pas, mais c'est vrai que ça a permis de toucher essentiellement un monde de sportifs, des associations dans ce milieu-là. Et on s'est aperçu que finalement, on arrivait rapidement aux limites de l'extension des manifestations. Alors on a essayé de grignoter un petit peu dans le monde de la culture, etc. Et effectivement, maintenant, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour le premier week-end du mois de décembre, et notamment dans les milieux, pas isolés, mais un petit peu en retrait des chefs-lieux de canton, où là, on retrouve carrément des animations qui se passent sur toute la journée, qui se conduisent même tard, jusque dans la nuit, avec des petits bals, des repas, des choses comme ça. C'est vraiment un caractère fect qui est venu se superposer à la raison Téléthon.
Et du coup, vous disiez qu'au niveau du territoire, c'était un peu compliqué de tout couvrir en même temps. Donc, est-ce que vous travaillez beaucoup avec des associations, des collectivités, etc.?
Alors, ce qui est intéressant, justement, dans les propos que vous rapportez, c'est qu'effectivement, on s'est aperçu qu'une seule personne ne pouvait pas organiser l'ensemble. Donc, il y avait un coordinateur au niveau départemental. Mais il a fallu, bien sûr, mettre en place une forme de maillage du territoire. On a respecté un petit peu nos quatre zones géographiques, si on peut dire. Et on a essayé de trouver des correspondants sur ces quatre zones qui étaient à même de connaître un peu mieux le territoire qui leur était rattaché et connaître notamment ce milieu associatif pour pouvoir développer des manifestations bien particulières. Parce que là aussi, et j'insiste, quand on est dans la rue et qu'on récupère de l'argent, ça veut dire qu'on répond déjà au cahier, au calendrier des collectes sur la voie publique. C'est quand même réglementé par les services préfectoraux, et ça, c'est normal. Il faut aussi que, dès l'instant où il y a de l'argent liquide qui circule de main en main, ça se fasse d'une façon la plus claire possible. Et je ne parle pas là que pour le Téléthon, mais c'est toujours délicat de parler argent. Donc, il ne faut pas non plus se servir d'une cause pour éventuellement nourrir après des suspicions ou quoi que ce soit. Donc, ici, grâce à ce maillage, par les quatre volontaires, si on peut dire, de base, on a pu réglementer l'ensemble et le territoire a été plutôt bien géré. Maintenant, on s'aperçoit effectivement que sur la Lozère, on a des zones un petit peu blanches, c'est comme pour la téléphonie, hein. Je vois Langogne actuellement, on n'a pas d'opération vraiment marquante, mais il y a d'autres secteurs comme ça. Et on est heureux cette année de voir que en fait l'AFM a réussi à recruter une personne de qualité, notamment donc notre collègue Monique Rousset, qui elle est là pour légitimer, si on peut dire, toutes ces manifestations-là, les réglementer, donner aussi un ton pour la marche. Il faut que tout le monde soit en bon ordre de combat et il faut que tout soit bien calibré pour qu'il n'y ait aucun doute à aucun niveau et que tout se passe au mieux. Donc ça permettra aussi dans un deuxième temps, outre la partie récupération financière, dans un deuxième temps, ça permettra de remonter l'information aux médias, presse écrite ou radio, pour également communiquer tout un calendrier des manifestations qui se fera au niveau de toutes les zones géographiques du département. Donc ça sera aussi un plus. Et ça nous permettra également de pouvoir faire après, en troisième temps, un bilan un petit peu de ce qui a été réalisé pour voir les axes de recherche et où on peut progresser dans ce domaine-là. Après, effectivement, on est à la recherche de nouvelles manifestations, de nouveaux partenaires, de nouveaux associés. Et tous ces bénévoles, pour les toucher, on a besoin de vous, on a besoin de votre communication. Donc c'est pour ça qu'on vous a sollicité et vous nous avez répondu favorablement. Alors soyez remerciés généreusement.
Ça sera également un de vos futurs travaux à effectuer, d'aller sensibiliser les acteurs, notamment, donc on parlait du secteur de Langogne, les associations, voire la municipalité, etc., pour essayer d'avoir davantage d'opérations sur un secteur où il n'y en a pas actuellement, Monique Rousset. Ou pas, pour l'instant, vous êtes juste, vous venez d'arriver, oui, et vous êtes sur l'organisation.
Voilà, pour l'instant, je viens d'arriver et c'est vrai que mon but, c'est de commencer à créer une équipe de coordination avec donc des volontaires bénévoles. Et je suis en train donc de constituer cette équipe. Je travaille déjà avec des responsables de secteur, dont le rôle est d'accompagner les organisateurs de manifestations. On a réparti le département, comme disait Guy Saleil, avec une partie ouest dont va s'occuper entre autres Jean-Pierre Bouvat, accompagné de Jean-Claude Badezé, et la partie est donc dont va s'occuper plus précisément Guy Saleil. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je souhaite recruter de nouveaux bénévoles pour conforter l'équipe de coordination. Je suis déjà en contact avec une demoiselle qui est une spécialiste de la réglementation, qui souhaite s'investir dans le Téléthon. Donc on va essayer de travailler avec elle et de la faire progresser et de l'intégrer. Et c'est vrai qu'après, mon rôle, c'est d'accréditer les manifestations, contrôler le bon déroulement de la collecte, comme ça a déjà été dit, et sécuriser la remontée des fonds.
C'est compliqué à l'heure actuelle. On le sait que c'est compliqué de trouver des bénévoles. Et concernant des causes quand même qui sont belles comme celle-ci, on a du mal sur certains endroits à trouver des gens.
Ben, pas... En fait, bon, je me permets de répondre, Monique, pardon. Et effectivement, on a peut-être du mal à trouver des bénévoles, mais je crois que c'est un petit peu aussi en puisant dans son portefeuille de relations hein, qu'on arrive à les fidéliser, parce que c'est pas le tout non plus de les enflammer juste pour comme ça démarrer. Ce qui est important, c'est aussi de rendre les équipes pérennes, donc les récupérer d'une année à l'autre. Et j'avoue que là, sur le travail de Jean-Claude Bouvard, sur le mien, hein, après tout, pourquoi pas le dire également, on a réussi à fidéliser des responsables de manifestation, et ces responsables nous aident grandement, parce qu'eux aussi ils mettent à disposition un petit peu leur relationnel. Tout ça, ça aide. Puis on a des associations qui sont partenaires avec nous. Moi, je vois, cette année, on a réussi à solliciter le comité des fêtes de Mende. Il va être, en quelque sorte, un petit peu notre repère, puisqu'il faut bien livrer un peu cette quantité de produits dont on a besoin. Les affiches, les tracts, la communication, les banderoles, les ballons, etc. Donc je remercie Yves Planchon, le président du comité des fêtes de Mende, puisqu'il nous a ouvert ses portes. Il va nous recevoir gratuitement, et ça c'est bien. Alors peut-être aussi, j'en profite pour faire un appel, c'est voir si éventuellement il n'y a pas d'autres associations ailleurs qui disposent de locaux, qui en ont besoin pour des opérations ponctuelles, par exemple des organisations de fêtes à des moments dans le calendrier, et effectivement, en fin d'année, dans la période nécessaire pour le Téléthon, c'est novembre, décembre, janvier, février, voilà, ils pourraient peut-être nous accueillir pour faire un petit pôle, on a besoin d'une dizaine de mètres carrés chaque fois, c'est pas énorme, mais avec une bonne organisation, ça se passe. L'important, c'est de ne pas coûter de l'argent, parce que nous, on est là pour en récupérer, on n'est pas là pour en dépenser. Donc, comprenons bien que le bénévole est intéressant, mais il y a le côté matériel, effectivement. Alors après, chacun met un peu la main à la poche en se débrouillant de payer ses frais de transport pour relier telle ville à telle autre, etc., etc. Ça ne fait pas tout. Il faut absolument qu'on trouve des locaux ici et ailleurs, et notamment sur les points les plus sensibles. Hein. On a notamment Grandrieu qui travaille très bien, le Blémard également, mais je pense au Massegros, je pense au Saint-Chély-d'Apché, à Aumont, la Canourgue. Tous ces coins-là, si on arrivait à faire un petit pôle, juste au moins pour se retrouver et récupérer ces bénévoles, les rassurer, ça serait le top.
Et est-ce qu'on pourrait pas faire une grande manifestation dans une ville et attirer toutes les associations et faire vraiment un week-end festif sur deux jours sur une grande ville, un peu comme ça se fait à la télévision?
Ça peut s'étudier, mais je rappelle mes propos du début de mon intervention, c'est qu'on est sur un territoire géographique qui est énormément important, un kilomètre, et le mois de décembre, c'est pas un mois de tout repos pour nous au niveau de la circulation, hein. Rien n'est facile, donc je sais pas, moi je trouve que c'est bien d'être plus près du consommateur de ces animations-là, en quelque sorte, et puis le bénévole, il s'implique bien quand il est dans sa zone à lui, dans son fief, il est un peu le prince dans son royaume, et il faut le laisser comme tel. Moi, je trouve que c'est admirable de voir des petites mamies qui se prennent deux pelotes de laine et hop, elles participent à un fil rouge, etc. L'idée Téléthon, c'est aussi de mobiliser au plus près des gens. C'est pas forcément les amener sur un site d'animation, c'est également de les faire participer, même chez eux, mais les faire adhérer à l'ensemble, à une cause. Ce qui est important, c'est de ramener de l'argent, ça c'est évident, on va pas le nier. Mais c'est également d'impliquer dans cette cause-là un maximum de personnes pour une grande prise de conscience et une mobilisation générale. Et à ce titre, on a réussi, sur un point, j'en parlais avec Jean-Baptiste et avec Monique, je disais, finalement, on a l'habitude de toujours solliciter le particulier, etc., etc. Mais j'ouvre la porte quand même aux collectivités territoriales, hein. Elles ont une communication à faire dans ce domaine-là. Elles ne sont pas exclues du programme de collecte.
Hein. Vous avez une pro de la communication à côté. Hein.
Super. Et je vous salue avec un grand sourire parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être donner de bons échos.
Très bien. Les pompiers participent aussi hein, chaque année au Téléthon. Les Auxerriens, ils sont beaucoup impliqués.
Oui, de toute façon, vous le savez, la générosité des pompiers, elle est de grande réputation, elle est légendaire. Mais effectivement, sur Mende, plusieurs fois, on a été impacté par le mauvais temps, notamment les inondations, et justement dans le calendrier consacré au Téléthon. Donc, voilà, on les inscrit dans nos programmes, mais après, selon leur disponibilité, ils sont acteurs ou pas. Mais de toute façon, on sait qu'on peut compter sur eux. Ça, c'est formidable. Hein.
Voilà, donc le Téléthon, c'est donner une visibilité donc à la cause, mais c'est aussi donc récolter des fonds. Et donc sur le territoire, quels types d'actions sont proposées? Est-ce qu'on peut retrouver un programme départemental peut-être quelque part?
Est-ce qu'on a déjà le programme justement de ce 5 et 6 décembre ou c'est en cours d'élaboration?
Alors, on va pas peut-être vendre la mèche. Il faut savoir que le lancement officiel du Téléthon sera le 5 novembre, depuis les locaux du comité des fêtes de Mende. 5 novembre, oui, je ne me trompe pas sur le mot.
Attention,
voilà. Et c'est Monique qui va faire le lancement, Monique Rousset. Alors peut-être Jean-Baptiste se joindra à nous. Je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est de mieux organiser cette communication pour que justement on répertorie davantage ces manifestations, même les plus éloignées, pour faire un calendrier unique. Mais on essaiera tout de même de passer par zone, hein, par ville ou par fief, hein, un programme des animations qui sont projetées, en espérant qu'on y collera au plus près. Mais il faut qu'on fasse des animations aussi bien dans le sport que la culture, que tous les domaines doivent être impliqués.
Est-ce qu'en Lozère, quel est le taux de mobilisation des Lozériens? On sait que pour les collectes, les Lozériens donnent beaucoup par rapport à leur proportion au niveau national. En Lozère, est-ce qu'on a beaucoup d'associations partenaires par rapport à la proportion de ces associations? Et peut-être même question sur la région, vu qu'on a le responsable régional qui est là. Est-ce que dans le Sud, on se mobilise pour cette cause? Alors peut-être commencer par vous.
Alors, le Téléthon est une grande cause nationale, donc toutes les régions sont mobilisées, et même en Lozère, pendant plusieurs années, il n'y avait pas de coordinateur, et même en Lozère, malgré le manque de coordinateur, des manifestations ont toujours eu lieu, et merci à Guy et aux équipiers de coordination, pour que cette mobilisation soit très forte. Alors, sur la région sud-est, voilà, les grands bassins, ou en tout cas les gros collecteurs sont vraiment... comme vous l'imaginez certainement, la Côte d'Azur, où les revenus sont un peu plus importants. Mais voilà, la Lozère a toujours été mobilisée, et je pense que Monique va nous raconter un petit peu la mobilisation sur la Lozère de l'an passé.
Voilà, l'an passé, Monique, dites-nous.
Alors l'an passé, il y a 22 contrats qui ont été passés, et on est arrivé à récolter au total, au Téléthon, entre... la Force T, le 36-37 et Internet, 116 367 euros.
Sur le département ?
Sur le département.
Ah, c'est énorme.
Il faut amener une précision également, parce que 22 contrats, bon, pour nous, ça a une signification. Mais il faut savoir que localement, ces mêmes contrats peuvent réunir plusieurs additifs. Ce qui veut dire qu'on peut grouper plusieurs actions sous un même contrat. C'est une opération un petit peu de commodité quand on manque de structure intermédiaire dans la hiérarchie, justement, dans cette pyramide d'organisation. Donc, ce qui veut dire que globalement, on peut penser qu'il y a à peu près entre 30 et 35 manifestations différentes qui ont eu lieu pour vraiment 22 contrats qui ont été concrétisés. Hein. Voilà.
D'accord. Finalement, cet argent récolté sert à quoi? Et notamment un pan qu'on n'évoque pas souvent, c'est le Téléthon qui est créateur d'emplois également, avec des métiers qui sont créés grâce à ces dons. Alors voilà, à quoi servent les dons? On donne pourquoi? Pour qui?
Mais on donne déjà pour guérir, hein, avec des traitements innovants, et on donne aussi pour aider les malades et leurs familles au quotidien.
Oui. Bon, il faut savoir que toujours il y a une répartition dans la collecte, hein, une répartition pour la structure, l'organisation, ah oui. Et ensuite il y a aussi une répartition de cet argent-là une partie qui est récupérée bien sûr pour cette fameuse recherche, puisqu'on a plus de 300 programmes d'intégrer dans le domaine de la recherche, je me répète, mais voilà, hein. Ce qui est important, c'est quand même de dire les actions. Ouais. Et on a également des chercheurs, comme dans d'autres équipes, qui sont mobilisés, et c'est des programmes qui sont longs, qui sont signés minimum pour 3 ans. L'État s'est désengagé dans la recherche. Il faut bien que des structures comme par exemple le Téléthon arrivent à faire un financement là-dessus. Donc voilà, ça représente à hauteur d'à peu près 80%, je crois qu'on avait vu, hein, Jean-Baptiste.
Ouais, sur 100 euros récoltés, il y a 81% qui vont à la recherche, aux essais thérapeutiques, à l'aide aux malades et aux actions de communication.
Voilà, concernant l'aide aux malades, donc il y a des métiers qui ont été créés ou pas, d'accompagnants, d'aide, Monsieur Meunier?
Oui, grâce aux dons du Téléthon, en fait, il y a des nouveaux métiers. En fait, les deux grandes missions de l'AFM étant de guérir et d'aider les malades à vivre avec la maladie en attendant la guérison. Il y a des référents parcours de santé qui ont été vraiment créés grâce au don du Téléthon, et ce sont des personnes issues du domaine médico-social et qui vont aider au quotidien les malades à vivre avec la maladie et à surmonter des obstacles liés à la maladie. Donc quel type de fauteuil électrique il faut acheter, quels aménagements il doit y avoir dans la maison, comment on aide la famille à vivre avec la maladie, parce que le malade c'est une chose et la guérison en est une autre, mais voilà, vivre avec un malade, c'est très très lourd. Et il y a des handicaps qui sont... il y a des personnes qui nécessitent un ou deux personnels de santé à plein temps. Il y a des personnes qui sont alitées. Donc il y a vraiment tout type de handicap. Et il y a des nouveaux métiers de santé qui ont été créés grâce au don du Téléthon.
D'accord. On parlait de recherche tout à l'heure. Où est-ce que ça en est? Est-ce que...
Est-ce que c'est une action qui... Est-ce que le Téléthon, concrètement, ça sert? Est-ce que ça fait avancer cette recherche? Est-ce que...
au bout de 25 ans, on en est où?
Concrètement, Monique va pouvoir vous le dire, mais effectivement, des progrès considérables ont été faits. Hein. On passe notamment à ces bébés bulles, etc. Et la recherche du Téléthon a avancé dans ce domaine-là, mais elle a également avancé dans d'autres domaines. Et les résultats de ces fameux chercheurs que j'évoquais tout à l'heure, que je salue également pour leur engagement, ce ne sont pas des résultats qui sont exclusivement réservés à la recherche pour la myopathie, contre la myopathie, etc. C'est une recherche qui est appliquée dans tous les domaines de la santé. Donc, vous voyez, au travers de l'argent qu'on récolte dans la rue, ça veut dire qu'il y a des retombées à tous les niveaux pour toutes les personnes. J'en profite juste pour vous dire également que lorsqu'on fait un don à hauteur de, par exemple, 100 euros au Téléthon, vous savez que grâce aux avantages fiscaux, en fait, ça vous coûte que la différence, c'est-à-dire 26 euros de votre poche. Hein, le reste étant un remboursement que vous récupérez sur vos impôts, pour ceux qui paient des impôts, bien entendu. Donc, il y a un avantage fiscal à souligner. Vous ne payez pas les 100 euros, en fait. Hein. Voilà, il n'y a qu'un différé de finances. Mais Monique va peut-être vous expliquer un petit peu les avantages dans le domaine, notamment de médical, donc ces bébés bulles, et etc. Hein.
Oui, mais si on veut parler des bébés bulles, c'est vrai que les bébés bulles n'ont pas de système immunitaire, donc ils ne peuvent pas se défendre. Et par ce biais-là, on peut introduire des gènes sains, et on va les introduire au cœur de la cellule. Donc au cœur de la cellule, on va déposer un gène sain, et on utilise un vecteur qui apporte ce gène sain au cœur de la cellule et qui va permettre de guérir, quoi. Voilà. Donc, on voit que la recherche avance par ce biais-là. Et c'est vrai que le Téléthon permet d'introduire des nouveaux gènes et il permet aussi, dans d'autres cas, de réparer des gènes. On arrive maintenant à ce stade-là.
Il n'y a pas de don minimum pour le Téléthon, hein. On peut donner...
Non, il n'y a pas de plafond ni plancher. Bon, il faut quand même se limiter à l'euro symbolique. Mais un don plafond, non, il n'y a pas. On n'a pas ça en magasin. Par contre, je voulais rappeler qu'également, dans le domaine de la recherche, quelque chose qui me paraît assez important, c'est par exemple sur les infarctus du myocarde, etc. Là aussi, il y a eu des progrès qui ont été faits, et notamment par les recherches Téléthon.
Voilà. Et ça arrive aussi par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, c'est plus que les maladies neuromusculaires.
Et finalement, donc, voilà.
Ça aboutit sur un peu tous les domaines de la santé.
Quoi. Mais ne perdons pas de vue qu'il y a effectivement cette recherche et cette avancée médicale. Mais il y a, comme le disait Jean-Baptiste Meunier tout à l'heure, hein, c'est aussi cette prise de conscience pour l'encadrement du malade et le confort du malade. Parce que quand une personne est malade dans un foyer, c'est toute la famille qui en a les échos, la répercussion. Donc cette prise de conscience-là, cet aménagement-là, il n'est peut-être pas pour le malade lui-même, mais il est vraiment pour son environnement, et donc son confort.
D'accord.
Et c'est vrai que le Téléthon a mis aussi en place des villages répit, et que ces villages répit permettent aux familles d'amener leurs enfants, qui sont gardés par des professionnels de la santé, et eux, à ce moment-là, peuvent souffler un petit peu, quoi. Donc ça, c'est quand même important, quand on a quelqu'un de malade tous les jours à la maison, de pouvoir prendre un petit moment grâce à ces villages répit, quoi.
D'accord, merci. Rappelez-nous le thème de cette année.
Le combat des parents, la vie des enfants, des progrès pour tous.
Très bien, merci beaucoup. Deux points, donc n'hésitez pas à donner au Téléthon. Et on a besoin de bénévoles en Lozère. Donc pour donner au Téléthon, comment on fait?
36-37.
De suite, maintenant on peut. Ça marche encore. Monsieur Meunier.
Et sinon, téléthon.fr pour faire un don en ligne pour dès aujourd'hui et 36-37 les 5 et 6 décembre pendant le Téléthon.
D'accord. Et si jamais on veut s'inscrire, on veut proposer une manifestation, on veut participer à ce Téléthon, comment on peut joindre l'association lozérienne?
Eh bien, de plusieurs manières. Monique a récupéré les infos, elle va vous les donner.
Voilà, Monique.
Donc, vous pouvez toujours me le signaler. Donc, mon téléphone, c'est 06 89 35 49 36. Ou mon adresse mail, monique.rousset@onadou.fr. Ensuite, pour la partie ouest du département, Jean-Pierre Bouvat, téléphone 06 08 09 40 28. Ou adresse mail, jpb48@hotmail.fr. Pour la partie est du département, Guy Saleil, 06 76 48 62 44, adresse mail mbgsaleil@gmail.com.
Voilà, et on pourra retrouver tous ces contacts sur notre site internet pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de les noter. Merci beaucoup d'être venus à tous les trois. On reparlera d'ici là, bien sûr, du Téléthon qui arrive très prochainement. Et on vous rappelle, vous pouvez donner dès maintenant et vous pouvez vous inscrire auprès des contacts pour participer à cette belle manifestation qu'est le Téléthon. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tout le monde.
Merci à vous.
Voilà, on va faire une pause musicale et on va parler ensuite attractivité du territoire. Voilà, allez, on poursuit dans ce mag avec un second sujet qui va être traité, Julia.
Oui, donc ça va être l'attractivité du territoire avec Ludivine Marbrier pour le Conseil Général. Et on va parler de l'opération Lozère Nouvelle Vie. Donc Ludivine, Lozère Nouvelle Vie concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert?
Oui, donc bonjour. Alors, Lozère Nouvelle Vie, c'est plus qu'une marque de territoire, c'est déjà aussi une démarche. qui a été impulsée par le Conseil général. Ça va faire pratiquement 2 ans maintenant. Et l'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose, enfin en tout cas une démarche collective. Donc c'est pas que le Conseil général, c'est pour le territoire. Donc c'est d'associer l'ensemble des acteurs du département pour travailler sur l'image, la notoriété du territoire. Parce qu'on se rend compte que de plus en plus il y a une concurrence très forte sur les territoires, que la Lozère a besoin de s'exprimer, d'avoir aussi une forme d'expression à l'extérieur du département. C'était aussi la nécessité d'accueillir de nouvelles populations, parce qu'il y avait une étude qui avait été faite qu'il était nécessaire et vital d'accueillir de nouveaux résidents en Lozère. Nous sommes quand même le département le moins peuplé de France. On est en dessous du seuil des 100 000 habitants. Et puis c'était aussi, donc, comme je disais, un travail sur l'image, de casser aussi quelques clichés qu'on a encore sur la Lozère. Territoire isolé, lointain, au climat rude, et c'est montré que ben, la Lozère c'est pas ça, c'est aussi des beaux espaces, une qualité de vie, c'est des gens qui ont également qui peuvent aussi travailler, avoir un vrai projet de vie professionnel, familial sur le territoire.
Ouais, c'est un message qui est porté vers l'extérieur.
Alors,
finalement.
Et à la fois oui et pas seulement, donc c'est en effet porté vers l'extérieur, puisque comme je le disais, c'est un travail sur l'image, attirer de nouvelles populations, mais c'est aussi et surtout important que les Lozériens soient impliqués dans cette démarche. Lozère Nouvelle Vie, on a également cette phrase qui est « Et si vous aussi, votre nouvelle vie était en Lozère ?» Donc c'est aussi interpeller à travers le regard des Lozériens, les gens qui sont à l'extérieur du département, c'est de dire, bah, regardez, moi je vis en Lozère et je vis très bien, j'ai une vraie qualité de vie sur mon territoire. Et donc on a vraiment besoin que les Lozériens se sentent ambassadeurs de leur territoire, qu'il y ait un sentiment de fierté, d'appartenance. Et puis aussi, on sait que les résidents sont les premiers à pouvoir, avec une légitimité, à communiquer sur leur territoire. Quoi. Ça crée aussi un effet miroir auprès des gens qui sont à l'extérieur. Ils vont apporter en effet cette légitimité qu'une collectivité peut-être n'aura peut-être pas tout à fait, parce que on s'identifie plus de plus en plus à, on le voit à travers les réseaux sociaux, à ce que va pouvoir témoigner une personne en disant bah si cette personne-là le dit, c'est que c'est sûrement vrai, quoi. Donc on a vraiment besoin des Lozériens pour travailler aussi sur cette démarche, quoi. Et juste pour finir aussi, par rapport à Lozère Nouvelle Vie, on voulait aussi créer un capital sympathie aussi vers l'extérieur, comme je le disais, donc à travers nos ambassadeurs, pour attirer les nouveaux touristes, nouveaux entrepreneurs.
Voilà, les ambassadeurs, on va l'évoquer tout D'accord. à l'heure. Vous parlez de travail collectif, de travail partenarial. Qui sont les partenaires, en fait, de cette opération?
Alors, Lozère Nouvelle Vie, c'est une démarche, c'est une marque qu'on veut partager, et on travaille avec, alors de manière très proche, avec 12 partenaires. On s'est raccroché, ou en tout cas, il y a un réseau accueil nouvelle population qui a été créé. Et ce réseau, qui est composé de 12 partenaires, a décidé aussi, parce qu'ils ont trouvé que ça avait un intérêt, de communiquer autour de Lozère Nouvelle Vie. Donc, nous avons les chambres consulaires, nous avons Relance, nous avons la Maison de l'Emploi, Lozère Développement, Lozère Tourisme. Donc, un certain nombre de structures qui travaillent et communiquent aussi autour de cette marque.
D'accord, mais ça, ce sont des structures gérées par le Conseil général, déjà?
Alors, c'est pas géré, parce que c'est... le Conseil général participe, dans cette démarche d'accueil nouvelle population. Mais ce sont aussi nos partenaires, les chambres consulaires. C'est pas une volonté que ça soit piloté, uniquement par le Conseil général. Surtout pas. On veut vraiment que ça reste une collectif et que pour que ça soit le plus approprié par l'ensemble des partenaires.
Quoi. D'accord, il y a des associations qui veulent se rattacher à cette opération. Je pense notamment des associations culturelles ou sportives qui pourraient aider dans cette opération.
Tout à fait. Alors l'idée, c'est aussi voilà de s'étendre. C'est donc il y a ce réseau accueil qui lui s'est regroupé pour organiser au mieux l'arrivée des nouveaux résidents. Et puis ensuite, c'est ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que en effet, les associations, les manifestations sportives, culturelles, on a envie aussi que tous ces grands événements qui peuvent avoir lieu en Lozère porte ses couleurs, quoi. Donc, on a eu cet été, on a fait un petit partenariat avec le Marvejol Allemande. On a des Tours du Monde aussi qui ont porté les couleurs. Donc, on travaille avec Seine Croisée également sur des événements, sur des parcours, enfin, sur des même des opérations qui ont lieu à l'extérieur du département. On a un kit communication qu'on peut mettre à disposition et que les gens peuvent utiliser. Ensuite, donc, il y a tout ce milieu associatif, mais même les entreprises, à titre personnel, on a des entreprises qui ont décidé, sur leur support de communication, de mettre la marque.
D'accord. Si voilà. Demain, je veux justement participer, je peux remplir un formulaire. Comment je...
Oui, c'est ça. Donc, il y a sur notre site internet, lozernouvellevie.com, il y a donc un endroit où vous allez pouvoir retrouver la démarche, donc qui explique pourquoi cette marque, le fait de pouvoir utiliser notre logo, et vous pouvez devenir aussi à votre façon ambassadeur du territoire avec Lozère Nouvelle Vie en utilisant le logo sur vos supports ou quand vous communiquez, quoi.
D'accord. Quand on communique vers l'extérieur, est-ce que la communication est différente si on essaye de cibler le grand public, d'attirer des personnes à venir en Lozère, ou si on essaye d'attirer des professionnels, des entreprises, des médecins, des corps de métier dont on manque dans le département? Est-ce qu'il y a un type de communication différente? Est-ce que vous avez finalement deux types de communication?
Alors, deux types de communication, oui, on peut dire qu'on cible aussi en fonction de nos objectifs. Bon, on avait fait en 2013 et qu'on a reconduit en 2014 un plan média télé. Donc l'année 2013, on avait voulu vraiment toucher un public très large, donc sur France Télévisions. Hein, donc on avait eu un plan média 15 jours en mai 2013. En 2014, on a reconduit cette opération, mais on a voulu cibler plus... économique, hein, sous l'angle économique. Donc on était sur BFM et également RMC Découverte, où là on avait une petite ouverture touristique. Donc là c'était plus avec notre agence de développement Lozère Développement. Et puis ensuite, si on veut travailler sur des cibles bien précises, on a également des gens qui utilisent notre marque, mais qui vont toucher, par exemple, quand vous parlez sur la démographie médicale. On a organisé un week-end, donc là on a une personne dédiée au Conseil Général qui organise des actions en direction des étudiants en médecine, donc qui les contacte directement, qui va sur les universités. Et puis on avait organisé un week-end au mois de juin en Lozère auprès de la fac de médecine à Montpellier. On a eu 60 étudiants qui sont venus pendant un week-end sur les gorges essentiellement dans les gorges du Tarn, et on avait communiqué Lozère Nouvelle Vie auprès d'eux également, quoi. Mais donc tous les gens qui sont un peu concernés peuvent communiquer autour de Lozère Nouvelle Vie. Nous, on avait fait plus une communication grand public, et après, selon les secteurs, tourisme, économie, santé, culture, sport, chacun peut aussi toucher sa cible. Quoi.
Oui, finalement, ça, c'est que du bonus pour vous. Voilà, vous avez mis la marque en place et chacun
Peut se l'approprier. Le bonus, je dirais, c'est pas que pour nous, c'est pour le territoire. Quoi.
Pour le territoire, bien sûr. Vous parliez des spots télé. Est-ce qu'on peut quantifier les retours d'une opération comme ça? Parce qu'on sait quand même que ça a coûté cher. Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on peut savoir si ça sert à quelque chose?
Alors, de dire que est-ce que ça sert à quelque chose, c'est ce qu'on disait, c'est que de rien faire. Je pense que rien faire, c'est ne pas du tout avoir de visibilité. Après, sur des communications, par exemple comme la télé, c'est vrai que c'est difficile de quantifier. on peut quand même avoir des mesures. On sait qu'on a eu des points de contact, des pics également sur notre site internet. À chaque fois, on le voit quand on fait, qu'on passe à la télé, notre taux de fréquentation sur nos sites internet augmente considérablement. Que pendant cette période-là, en effet, le réseau accueil a reçu aussi des formulaires en disant des formulaires d'installation. Après, il faut savoir aussi que c'est évident que c'est pas 15 jours aussi comme ça de spots qui vont tout changer en un mois. Ça demande aussi du temps. Il y aura aussi d'autres actions qui vont être lancées. C'est vraiment un travail de longue haleine. Je sais aussi que sur d'autres territoires, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur
la communication
télévisuelle. La communication, à la fois sur les ambassadeurs, auprès des médias, des actions qui sont menées. Donc, ça prend du temps. Mais
les ambassadeurs, ça existe déjà dans d'autres départements?
Oui. On prend par exemple, j'ai vu l'exemple, c'est Lyon, avec Only Lyon qui a travaillé vraiment, qui a été, je pense, une des premières, un des premiers territoires à travailler sur ses ambassadeurs. Et nous, on travaille de manière aussi différente parce qu'on a plusieurs formes aussi d'ambassadeurs, plusieurs niveaux. Et c'est ce qu'on voudrait aussi vraiment mettre l'accent en 2015 et continuer auprès des ambassadeurs, quoi.
Donc on parlait en termes d'action mise en place, on parlait donc des films promotionnels à la télé. On a parlé un peu des ambassadeurs, mais on y reviendra ensuite. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions qui ont été menées, des actions plus dont vous pourriez nous parler, des actions un peu précises
Alors, au niveau des actions, comme je le disais, donc il y a tout ce qui est autour des films, autour des ambassadeurs, et après, c'est la présence sur le terrain. Donc, ce qu'on disait, on travaille sur le Tour de France du télétravail, des manifestations sportives, culturelles, où là, les gens ont relayé. On a également différentes actions, c'est plus des outils qu'on a mis en place, donc notre site internet, notre page Facebook. C'est vraiment sur ça qu'on a déjà commencé à capitaliser, quoi. Et puis on a un projet pour 2015, mais là on en reparlera peut-être l'année prochaine si je suis de nouveau invitée. Mais on essaie de trouver des nouveaux leviers pour travailler sur cette marque, quoi.
Ouais. D'accord. Donc il y avait eu déjà des premiers castings ambassadeurs qui avaient été réalisés donc en 2014.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc un nouveau, le projet est relancé. Peut-être faire un bilan de la session précédente et nous parler de ce nouveau projet.
Alors c'est vrai que dans les films qu'on avait réalisés, on avait eu aussi deux spots qui étaient consacrés à des témoignages, des personnes qu'on appelle les ambassadeurs. Ils étaient 12. Et puis, donc on peut retrouver encore sur notre site internet. Et ces 12 personnes, on a souhaité aussi les valoriser davantage en faisant des portraits photos et des portraits écrits pour que ces personnes puissent raconter leur parcours. On a fait une exposition à la Maison de la Lozère à Paris et également sur les grilles du Conseil Général pendant tout l'été. Et puis on faisait également toutes les semaines sur notre page Facebook également, on a présenté ces personnes. On a souhaité continuer donc la démarche, ne pas se limiter à ces 12 personnes, en utilisant là une forme différente, puisque là c'était des gens qu'on avait un petit peu sélectionnés pour nos films. Là, la nouvelle version, je dirais pour 2015, c'est un appel à candidature.
Donc moi, je veux être ambassadrice du département. Je fais comment?
Alors, c'est tout simple. Vous allez sur notre site internet ou alors vous me contactez directement par adresse postale pour les gens qui veulent, qui ne vont pas sur le site internet. L'idée, c'est de dire, je veux être ambassadeur. Je veux être également, faire partie des 12 prochains. Je fais un petit courrier. C'est sous la forme de courrier, de lettres. pour témoigner votre attachement au territoire. Vous dites pourquoi vous vous sentez ambassadeur ou ambassadrice, quel est votre attachement au territoire. Et les 12 plus belles candidatures seront retenues. Donc, il y a un jury qui a été sélectionné. Et les 12 plus belles candidatures seront retenues. Ensuite, comme pour les 12 précédents, vous serez pris en photo par le photographe qui avait été déjà missionné. Et donc, vous serez mis en avant pendant toute l'année 2015 sur nos réseaux sociaux. Il y aura une nouvelle exposition. Et puis, également pour les gens qui se sont investis à se dire « moi, j'ai envie de porter les couleurs de mon territoire ». Donc, on remettra à chacun une petite box, Lozère Nouvelle Vie. Et également, on a prévu, parce que ça faisait le lien avec nos anciens ambassadeurs, un repas d'une valeur de 100 euros parmi les 3 restaurateurs qui étaient déjà dans nos ambassadeurs précédents.
N'importe qui peut postuler ou il faut avoir des spécificités?
Non, pas spécialement. Je dirais que c'est avant tout le cœur qui doit parler. Donc, qu'on soit résident. Alors, quand je dis résident, c'est soit une résidence principale ou une résidence familiale ou secondaire. Et puis, c'est ouvert vraiment à tout le monde, quoi. Qu'on soit encore majeur ou pas, il suffit d'avoir l'autorisation des parents. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de profession particulière. C'est vraiment un engagement personnel. Donc, on peut être dans le milieu associatif, on peut être mère au foyer ou homme au foyer, on peut être retraité, on peut être étudiant, on peut être... Voilà, il n'y a vraiment pas de critères spécifiques.
Eh ben, Julia, tu peux, ouais.
Ouais.
Julia, comédienne, chanteuse.
Voilà.
Très bien, ça.
Julia, artiste. De quand à quand on peut postuler? Quand est-ce qu'on aura une réponse?
D'accord. Donc, alors, c'est jusqu'au 1er décembre. Donc, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 1er décembre. Et ensuite, le jury se réunira courant janvier. Et courant février, les candidatures seront publiées, je dirais, en tout cas, pour une exposition au printemps à Paris et pendant l'été, à Mende.
D'accord. Vous avez dit en préambule de cette émission qu'on était en concurrence. On est en concurrence avec qui, finalement?
Alors, on est en concurrence... quand on parle de concurrence des territoires, c'est déjà peut-être aussi par rapport à nos départements limitrophes, quelque part.
C'est avec nos départements voisins.
Nos départements voisins, et même qui sont pas forcément voisins, mais c'est vrai que on a tous envie peut-être de dire qu'on est le plus beau département, que vous pouvez venir vous installer. C'est vrai que nos départements voisins, mais il y a également plein d'autres départements qui communiquent sur leur image, sur le fait d'accueillir des nouveaux entrepreneurs. Donc il y a le département de la Sarthe, il y a le département du Loir-et-Cher, il y a le département de l'Aisne. Après, il y a des départements où la concurrence est beaucoup plus difficile parce que déjà naturellement, c'est des territoires qui attirent assez facilement. Mais si il y a un moment, on se dit pas nous aussi, on veut être présent sur la scène, c'est compliqué, quoi. On a vraiment besoin d'être aussi un peu offensif, quoi, et un peu je dirais pas du tout agressif, mais il y a des départements, ils sont vraiment dans des configurations comme ça, quoi. Et nous, notre avantage, je pense que on y revient de plus en plus. On n'est pas en effet un département urbain. Mais on voit que les gens reviennent sur des vraies valeurs, l'authenticité, le retour à la nature, le ressourcement, le fait de pouvoir, en effet, grâce à maintenant nouvelles technologies, de dire « je peux travailler dans un territoire rural et profiter de la nature et puis être dans les nouvelles technologies ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que la Lozère doit capitaliser, quoi.
D'accord. Vous avez communiqué un peu sur l'UNESCO, ce label qu'on a obtenu. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de communication de Lozère Nouvelle Vie par rapport à...
Alors, on y travaille de plus en plus parce qu'avec l'entente, on a envie de travailler avec eux parce que je sais aussi qu'ils ont mis en place des ambassadeurs UNESCO. Donc y a, voilà, il y a plein de niveaux d'ambassadeurs et ils ont lancé aussi leur page Facebook. Donc on a envie vraiment avec utiliser aussi ou en tout cas profiter de cette image, de cette de ce label hein, quand même qui est mondialement connu pour communiquer avec Lozère Nouvelle Vie et l'UNESCO. Et c'est aussi une belle porte d'entrée, l'UNESCO, pour Lozère Nouvelle Vie, quoi.
Alors, le Lozérien, acteur de la promotion de son département, vous lancez un réflexe Lozère Nouvelle Vie avec des panneaux, c'est quoi exactement?
Alors, on a des petits écriteaux, en effet, on a fabriqué des petits écriteaux Lozère Nouvelle Vie, et on invite aussi les Lozériens, lorsqu'ils sont, je sais pas, même en Lozère ou à l'extérieur de leur territoire, à l'étranger et tout, ne pas hésiter à se prendre en photo avec le petit écriteau et ensuite à poser ou à poster sur leur page Facebook ou via notre page pour dire je suis peut-être au bout du monde et j'ai mon cœur qui est encore en Lozère ou tout simplement même quand je fais une rando. En Lozère et tout. Enfin, l'idée, c'est vraiment créer ce petit capital sympathie aussi que j'aime bien utiliser pour dire que la Lozère est toujours un peu là, quelque part, quoi.
On peut faire croire que la Tour Eiffel se trouve en Lozère aussi en prenant une photo avec Lozère Nouvelle
Vie. Par exemple, ouais. Alors,
en communiquant vers l'extérieur.
On peut toujours, ouais.
Non, par là, on voit l'importance des réseaux sociaux de nos jours. Ça prend de plus en plus d'importance.
C'est super important. Ouais. On s'est rendu compte que. La page Facebook notamment, puis on a aussi un compte Twitter, mais c'est on le voit hein, c'est un réflexe maintenant qu'ont de plus en plus les gens, le fait d'être présent de manière un petit peu présente et discrète et leur montrer qu'il y a des actions, c'est ça aussi à travers cette page Facebook, c'est de montrer qu'il y a plein de choses qui sont organisées sur le territoire. Donc on relaie aussi bien des choses qui sont faites par des gens qui proposent des choses, que ça soit dans le domaine culturel, sportif, économique, produits du terroir. L'idée c'est ça, c'est à la fois que nous on communique sur ce que nous faisons, mais c'est aussi de relier ce qui est fait par tous les acteurs du territoire, quoi. Et puis, les gens peuvent liker, partager.
Voilà, et cet été, vous allez pouvoir bénéficier d'une visibilité exceptionnelle avec le Tour de France.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est peut-être en effet parmi les événements importants qui auront lieu donc en 2015, le Tour de France, donc on aura sur un week-end les 18 et 19 juillet, donc en plus ça tombe sur un week-end, donc en termes de visibilité, je pense que c'est quand même hyper important. Donc on a une arrivée et un départ à Mende, et là c'est vrai que on a su en plus de la semaine dernière le parcours qui a été officialisé, donc on commence déjà à travailler, à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire, comment on peut s'organiser. Pour donner en effet la visibilité à Lozère Nouvelle Vie pendant cet événement. Il faut savoir que c'est quand même le troisième événement sportif le plus regardé au monde. Donc après les JO et la Coupe du Monde de foot. Donc arrive le Tour de France quand même, qui est assez exceptionnel. Et on voudrait aussi mobiliser l'ensemble des Lozériens. Donc on peut faire un appel à l'ensemble des Lozériens s'ils ont des idées pour qu'on ait une visibilité pendant ce week-end, on est preneur de leurs idées et de leur mobilisation, quoi. Donc c'est parce que c'est aussi un événement qui est populaire, les gens aiment, enfin on sent qu'il y a de l'affect aussi autour du Tour de France, et donc sachant aussi que ça sera les 20 ans de la montée Jalabert. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à faire autour de cet anniversaire.
Voilà, mais j'espère que vous serez entendu. Pour terminer, la prochaine opération, c'est quoi? C'est les ambassadeurs?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Là, on est vraiment sur les ambassadeurs pour la prochaine action. Et puis, il y en aura eu quelque chose d'autre, je pense, hormis tous ces événements qu'on va soutenir. Il y aura une autre action courant 2015, deuxième semestre 2015, je pense.
D'accord. Voilà. Ben
on aura l'occasion d'en reparler.
Voilà, exactement. Ouais. Ludivine Marbrier, merci.
Merci
d'être venue dans cette émission. L'émission sera rediffusée ce jeudi à 18h10 et samedi à 11h. Et bien sûr, podcastable dès cet après-midi sur notre site 48fm.org. Merci, Julia.
Merci, Ludo.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Votre agenda culturel du mardi 28 octobre au lundi 3 novembre 2014. Bonjour Julia.
Bonjour Marie.
Alors mardi 28, on commence avec du cinéma au Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apché avec Drôle de créatures. On croise parfois de bien étranges créatures sans penser forcément que ce n'est pas si facile d'être différent. 7 courts-métrages sur le thème de la différence. Ce sera à 16h15 pour un tarif de 6,80€, 5,80€ et 4€ pour les moins de 14 ans. C'est pour un public de 3 à 6 ans et c'est proposé par le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apché.
Donc on va continuer avec de la danse ce jeudi 30 octobre avec un spectacle qui s'appelle Manon. C'est un opéra retransmis en différé du Royal Opera Ballet de Londres. Le Royal Opera House ouvre avec Manon, pièce maîtresse du répertoire du Royal Ballet. Entre effusions passionnelles, scènes comiques, bourgeois amoureux, tentations et plaisirs faciles, cette histoire inspirée par les héros mythiques de l'abbé Prévost se prête parfaitement au cinéma. Kenneth Macmillan y exprime sa fascination pour les personnages égarés et les sujets dramatiques. Il restitue le tourbillon dans lequel Manon la sensuelle, Manon l'ingénue, se perd et entraîne dans sa chute le fidèle chevalier des Grieux. Le chorégraphe construit son ballet sur une mosaïque d'extraits de Massenet, trouvant dans sa musique toute la fraîcheur et le romantisme nécessaires à cette grande fresque dansée. Les scènes de foule et de bal succèdent aux pas de deux passionnés jusqu'à l'issue sublime et terrible du ballet. Donc ce sera à 21h, au tarif de 15, 12 et 9€. C'est une représentation tout public qui sera proposée par le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apché.
Merci Julia.
Merci Marie.
Bonne semaine culturelle à tous.
Bonne semaine.